toutes et tous confrontés un jour ou l'autre. Confidence d'un embaumeur, c'est le titre de votre ouvrage, Alain Koenigs, ouvrage que vous avez coécrit avec Eric Willem, qui est là aujourd'hui. Merci d'être là. Puis on va s'intéresser à un autre métier de l'ombre, métier qui est probablement source de toute une série bien d'imaginaires, de questions, de réflexions. C'est celui de Patricia van der Linden. Bonjour. Vous êtes membre de la DVI. Vous êtes spécialisée dans l'identification des victimes de catastrophes. Et vous êtes, vous, l'autrice de Donner un nom aux morts, livre également publié chez Racine. Eric Willem, c'est vous qui nous avez proposé, en gros, eh bien, de nous intéresser à ces deux livres, parce que vous, quelque part, les métiers de nos deux invités vous fascinaient depuis longtemps.
Oui, c'est vrai que je viens souvent parler ici plutôt de ma fille.
Oui.
Mais quelque part, c'est une façon de tenir la vie par les deux bouts, hein, entre l'enfance et la mort, ces deux réalités. Et Patricia et Alain, je les connais bien depuis des années, on a déjà eu l'occasion de tourner ensemble. Et je trouve que finalement, ils font des métiers pour les vivants avant tout. Et ce sont des beaux métiers. Patricia, elle est dans le ici et maintenant, puisqu'elle s'occupe de redonner des noms aux personnes décédées pour que les vivants, que les familles sachent que leur proche est effectivement décédé. Parfois, il y a des gens qui attendent pendant des mois, des années, parfois avant de savoir si leur proche disparu est décédé ou pas. Bien, Patricia, elle vient donner un nom à ces personnes décédées. Et Alain, il regarde plutôt vers le futur, vers l'avenir quelque part, puisqu'il va faire en sorte que les vivants puissent revoir leurs personnes décédées, leurs proches décédés, jusqu'aux funérailles, puisqu'il va préserver simplement leur apparence, et parfois réparer leur apparence, puisque c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des morts violentes, et Alain a cette capacité incroyable, et c'est un spécialiste international en la matière, de reconstruire le visage pour que les vivants puissent revoir leurs proches décédés et ainsi faire leur deuil. Et tous les deux, en fait, sont au service du deuil.
Il y a une forme de service aussi d'ultime humanité que vous apportez tous les deux. Alors, pour dire la vérité aux auditeurs, nous avons lu, Cédric, moi, chacun un livre, et puis après, on se l'échangera. Et Patricia van der Linden, moi, quand je vous ai lu, j'ai eu l'impression que ce métier que vous n'avez pas forcément imaginé quand vous êtes entré dans les services de police, vous l'avez construit, il vous a collé à la peau. Aujourd'hui, il est parfois pesant, vous niez absolument pas les difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais vous le dites, et je le ressens dans ce que vous écrivez, vous ne changeriez de métier pour rien au monde, notamment pour ce genre de raisons-là, pour ce que vous ressentez de reconnaissance, parfois d'apaisement chez les proches à qui vous donnez une information attendue parfois depuis si longtemps.
Tout à fait. En fait, ce travail, en fait, m'a forgé dans cette envie de continuer. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis tout le temps, hein, même quand on a des nouveaux chez nous, je leur dis toujours, malheureusement pour les victimes, vous ne savez plus rien faire. Il y a tellement à faire pour les proches. Travaille comme tu aimerais qu'on travaille pour toi si tu étais dans cette situation-là. Notre force à nous, en fait, et c'est un peu paradoxal, c'est de se dire que ce sont les proches qui nous donnent cette force d'avancer. Parce qu'en fait, on travaille pour eux. Et effectivement, je n'en changerais pour rien au monde, même si de temps en temps, c'est un peu plus lourd. En fait, on ne travaille pas. Il faut savoir que le DVI belge, on ne travaille pas que pour les catastrophes. Nous, on travaille quotidiennement.
Accident de la route. Vous pouvez être appelé sur un incendie ou ce genre de choses.
Accident de la route, effondrement d'immeubles, voilà, des personnes, des corps dans l'eau. On a encore été appelé hier soir pour un dossier. Donc, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais vraiment, toute l'équipe travaille en pensant aux proches. Ça, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail.
Et d'ailleurs, vous êtes de garde aujourd'hui, donc
je suis de garde. Oui,
pourrait éventuellement.
J'ai ma collègue qui j'ai transféré le GSM le temps d'être ici. Et alors, si vraiment c'est urgent, j'ai dit tu m'envoies un petit SMS et je quitte le plateau. Ouais.
Alain Koenigs, vous aussi, hein, vous êtes embaumeur aujourd'hui. Vous êtes donc thanatopracteur. La question que tout le monde se pose, vraiment, c'est qu'est-ce qui pousse un jeune homme à un moment à se dire tiens, je veux devenir thanatopracteur.
Moi, ça a été le hasard d'un ami qui me dit, tiens, je te verrais bien une thanatopracteur.
Il est chouette, votre ami.
Bah oui, j'ai un ami qui m'a dit ça. Et puis, je fais, quoi? C'est quoi? Puis, il m'a expliqué, je fais, ah ouais. Et effectivement, hein, donc déjà, depuis mon enfance, moi, j'avais quand même déjà un intérêt pour conserver tout ce qui devait se dégrader, que ce soit un pot pourri chez le fleuriste, voir une orange conservée. Moi, ça, je trouvais ça fascinant parce que, bah, quand on est enfant, une orange, ça se dégrade. Et, bah non, il y avait moyen de conserver. Donc, ça m'a toujours fasciné.
Qu'est-ce que c'est que réellement aujourd'hui un thanatopracteur?
C'est quelqu'un qui prend en charge les défunts. Donc nous, on n'a pas de cadavre et Patricia non plus n'a pas de cadavre. C'est un mot qui est proscrit. Je pense qu'avec Eric, on a fait très attention. Le mot cadavre n'y est que trois fois pour dire qu'on n'utilise pas le mot cadavre parce qu'on laisse ça plutôt au légiste. Donc nous, vraiment, le défunt, parce que ça sous-entend qu'il y a une famille derrière. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Donc un thanatopracteur, qu'est-ce que ça fait? Ça permet aux familles de représenter, de revoir leurs défunts dans de bonnes conditions.
C'est un peu le parallèle aussi que je fais avec vous, Patricia, c'est ce besoin de nommer, de redonner un nom, une identité, c'est aussi ce besoin de ne pas dire juste c'est une victime, c'est un défunt, c'est un cadavre, ce sont des restes parfois dans certains cas que l'on a retrouvés. Non, c'était une personne et les nommer, c'est quelque chose d'important.
Ah, c'est super important. D'ailleurs, quand on travaille par exemple sur des dossiers de grande envergure comme on a vécu, on vient de faire les commémorations pour les attentats, effectivement, au départ, on va mettre des numéros. Pour un corps, on va mettre M1, M2, M3, M4. Pour des parties de corps, on va mettre des P, P1, jusque quand on a récupéré toutes les parties. Et très rapidement, une fois que les victimes sont identifiées, c'est plus des numéros. Je veux dire, ce sont des personnes et il faut les nommer telles comme telles. Et effectivement, cadavre, ça, nous n'utilisons pas, puisque c'est pour nous plutôt une connotation négative. Alors, un médecin légiste peut se le permettre. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas l'affectif. Il n'est pas en contact avec les familles. Tandis que nous, oui, moi j'ai une maman qui a une fois réagi. Je l'ai entendue, la maman, parce qu'il y a une personne qui lui avait dit « Oui, le cadavre de votre fils a été retrouvé. Mon fils n'est pas un cadavre. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au DVI et sur lequel j'insiste, on n'utilise pas ce mot. Je vous le dis, un médecin légiste peut se le permettre parce qu'il n'est pas en contact aux familles comme nous le sommes ou comme Alain l'est également.
Patricia, là, votre toute première mission, qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur le lieu où vous allez devoir opérer et quand vous allez pouvoir redonner une identité à l'humain ou reste d'humain que vous avez retrouvé?
Le premier dossier sur lequel j'ai travaillé n'est pas d'ailleurs dans mon livre. C'est un petit monsieur qui est retrouvé près des chemins de fer, accroché à un talus. Il est là depuis plusieurs semaines, donc son corps est détérioré forcément. Ben, c'est ma première mission. Moi, j'étais nouvelle au DVI. J'étais très fière de porter ma veste DVI. Donc là, j'avais un sentiment de fierté. Et puis, très rapidement, je me suis dit, oh là là, sur quoi je vais tomber? Parce qu'on s'est un peu l'inconnu. Il y a une différence entre être policier, intervenir sur des décès, des accidents, des décès naturels, que de devoir manipuler un corps. Donc très rapidement, on va descendre le long de ce talus, récupérer cette personne, malheureusement qui n'est pas en bon état, mais très rapidement, grâce au laboratoire, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire au DVI, nous ne sommes qu'une petite partie de l'équipe, on travaille avec des médecins légistes, on travaille avec le CSI, donc le laboratoire de police technique scientifique, et c'est eux qui ont pris les empreintes de cette personne, et c'est grâce à eux qu'on a pu identifier ce petit monsieur. Mais aujourd'hui, on est 20 ans, parce que moi ça fait 20 ans que je travaille dans ce service, je me souviens encore parfaitement de l'histoire que ce monsieur, en fait, avait été expulsé de son logement. Donc on s'est toujours posé la question, est-ce que ce petit monsieur qu'on a identifié, est-ce que finalement il descendait dans le talus pour aller vivre là en tant que... Comme SDF, voilà, c'est ce que sans domicile fixe, ou est-ce qu'il comptait aller se jeter devant le train? C'est une question qui reste et qui restera sans réponse.
Ça fait 20 ans que vous travaillez pour ce service. On va revenir aussi sur l'évolution parce que je pense que tout le monde a une image des services d'identification qui vient probablement des séries que l'on peut voir, des films que l'on peut voir. La réalité de terrain, on va essayer de bien la comprendre. On va essayer de bien comprendre également votre réalité, Alain Collings, puisque en X années de thanatopraxie, c'est bien ça, mais je suppose que les techniques aussi ont évolué. Il y a 20 ans, vous travailliez comment? Aujourd'hui, vous travaillez comment?
Toujours de la même manière, en fait.
Ah oui.
Donc les techniques n'ont pas beaucoup évolué. Le fluide que l'on injecte a évolué, lui, effectivement. Donc avant, on injectait du formol quasiment pur. Ici, on injecte de moins en moins de formol pour des questions de santé écologique également. Et on va plutôt mettre des produits avec qui vont améliorer l'effet du formol.
L'idée étant, évidemment, dans ce travail que vous pratiquez au jour le jour aussi, on me parlait de redonner une identité, mais c'est aussi de redonner une forme de beauté et parfois même d'apaisement. Quand on voit parfois certains corps, l'expression des gens qui y entourent, c'est souvent « il a l'air apaisé, il a l'air endormi ». C'est souvent le travail que vous faites.
Oui, c'est l'objectif. Hein. Donc, quand on demande qu'est-ce que c'est que d'avoir une belle mort dans notre société, la plupart du temps, les gens répondent « c'est partir tranquillement dans son sommeil ». Et donc ça, c'est un peu la vision acceptable de la mort dans notre société. Ce qui fait que le travail de l'embaumeur, du thanatopracteur, c'est de replacer la personne dans cette image d'une personne qui dort. D'ailleurs, tout ce qui est langage, la personne repose au funérarium, on dit qu'elle dort, qu'elle s'est éteinte, qu'elle s'est endormie à jamais. Donc, le sommeil et la mort sont extrêmement liés dans notre société.
Est-ce que le regard posé sur la mort a évolué en quelques années? Je pose la question d'ailleurs aux deux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a de moins en moins de rites, où on ferme de plus en plus rapidement, par exemple, un cercueil, où le contact avec la personne décédée est de moins en moins tactile, vraie, humaine. Est-ce que vous avez senti une évolution dans le regard posé sur la mort?
Je crois que le problème, c'est que la mort aujourd'hui ne se fait plus dans les maisons, dans les quartiers. La plupart du temps, les personnes décèdent à l'hôpital ou dans les maisons de repos, ce qui fait qu'elle n'est plus vraiment intégrée dans la vie. On apprend que le voisin est décédé lorsque la maison est à vendre, parce que ça faisait déjà un petit temps qu'il était dans la maison de repos. Donc je crois que ça a éloigné les gens de la mort en tant que telle. Donc qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui de la mort? C'est des gens qui écrivent des livres comme nous, c'est des médecins légistes qui communiquent, mais c'est pas non plus la mort en tant que telle comme le vit les gens au quotidien.
La mort est perçu un peu comme un échec en fait dans notre société. On le dit dans le bouquin, c'est vrai que les morgues sont souvent à côté des poubelles dans les hôpitaux. La mort, c'est l'échec de la médecine, alors qu'en fait elle fait partie de la vie et il est peut-être urgent de la remettre aussi dans la vie, dans la famille. Moi, je viens d'une région où on avait les défunts à la maison et c'était chouette parce que les voisins venaient, on buvait une goutte autour du défunt et quelque part ça permettait aussi de faire son deuil, d'avancer en fait. Aujourd'hui, on cache et en fait, on parle d'un exemple très concret où une maman perd son fils dans un accident de moto. Elle n'a pas l'occasion de le revoir. Dès qu'elle entend une moto passer dans la rue, elle pense que son fils revient. Pourtant, elle sait, sa tête sait que son fils est décédé. Mais parce qu'elle n'a pas pu le voir, forcément, elle n'a pas pu faire son deuil non plus. Le prince Harry en parle également par rapport à Lady Di. Il n'a pas pu voir sa mère quand elle est décédée. Il a mis des années avant d'accepter le fait que sa mère soit décédée parce qu'il a enfin pu voir une photo qui lui a permis de constater qu'elle était en effet décédée.
C'est la même chose dans votre travail, hein. C'est vous apporter aussi parfois la réponse à des gens qui sont en attente d'eux et qui ont encore parfois de l'espoir aussi que
toujours,
ce ne soit pas...
Toujours, en fait, quand on a par exemple une disparition en Belgique, et nous on comptoie les familles à ce moment-là pour faire ce qu'on appelle un antémortem, on va rassembler un maximum d'informations sur la personne disparue. Moi souvent je pose la question à la maman, le papa, qu'est-ce que vous pensez? Les parents me disent... Ah, moi, à mon avis, il est parti quelque part. Ou alors, carrément, les parents me disent, il est décédé. La maman me dit, je sens qu'il est mort. Et je veux le récupérer. Parce qu'il n'y a rien de plus catastrophique que de ne pas savoir. Je l'ai vécu avec la rue Léopold le 27 janvier 2010. Je m'en souviendrai toujours. On était déjà plusieurs jours sur place, deux jours sur place, occupés à gratter les gravats. Parce qu'il nous manquait des victimes, dont un jeune couple. Et donc on est presque 3 jours plus tard, 3 heures du matin, on est parvenu à les retrouver, on les a identifiés avec le dentiste DVI qui était venu sur place en pleine nuit. Et les parents attendaient dans le centre d'accueil, ils se reposaient. Donc j'avais demandé à la Croix-Rouge, le CISU, le service d'intervention sociale d'urgence, de réveiller les parents parce que je voulais faire l'annonce de mauvaises nouvelles. Je me souviendrai toujours de la maman qui est réveillée et qui vient vers moi et qui me regarde et qui me fait « il est vivant ». Alors qu'au fond d'elle, savait pertinemment bien que son gamin n'était plus là, parce qu'en fait, on est déjà plus de 48 heures, presque 3 jours plus tard. Donc il y a toujours ce petit espoir pour pour certaines familles. D'autres familles, par contre, c'est immédiatement non, pour moi, il est décédé, mais je veux le récupérer.
Patricia van der Linden, Anna Konings et Eric Willem, vous restez évidemment des nôtres pour évoquer le succès des bouquins de Philippe Boxo. Pourquoi, selon vous, quelque part, cette mort, elle fascine quand elle n'est pas proche, quand ce n'est pas la mort d'un proche, d'un ami, d'un parent ou des choses comme ça?
Elle intrigue, la mort. Il suffit de voir, on en parlait, un accident de la route, les gens ralentissent pour regarder. Ils ont envie de savoir, mais pourquoi? Patricia, toi...
Je pense que c'est parce que c'est l'inconnu pour tout le monde. Hein. Donc en fait, il y a des études qui font après la mort, il y a ci, il y a ça, mais bon, à part y aller, et le voir par soi-même, je pense qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière.
C'est une question millénaire, hein, de toute façon. Déjà, les grands philosophes se posaient ça. D'où venons-nous, allons-nous?
Mais justement, par rapport aux accidents de la route, quand vous voyez des automobilistes ralentir...
Ça m'énerve.
Je ne sais pas pourquoi ça se voit directement sur votre visage. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que c'est vrai qu'ils sont, ils et elles, d'ailleurs, sont nombreux et nombreuses.
Certainement. Mais c'est aussi à cause des réseaux sociaux. Hein. Donc ce sont des gens qui vont filmer, qui vont mettre sur les réseaux sociaux. Premièrement, ils mettent leur vie en danger parce que ce n'est pas anodin et... Ça arrive régulièrement qu'il y a des suraccidents à cause de ça, parce qu'il y a des ralentissements de l'autre côté, parce qu'ils sont occupés à filmer, il y en a un qui n'est pas assez attentif et qui crée un suraccident. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est pensez simplement, si c'était votre proche qui est dans la voiture accidentée, est-ce que vous aimeriez qu'on filme? C'est simplement, voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais dire.
Il y a une chose qui m'a beaucoup intriguée et fascinée aussi dans votre ouvrage, c'est que finalement vous travaillez beaucoup en équipe et vous travaillez beaucoup à l'international aussi avec les collègues.
Effectivement, on travaille à l'international, mais on ne part pas beaucoup à l'étranger. Donc moi, en 20 ans, je suis partie une fois aux Pays-Bas. Oui, à Hilversum, mais c'est une belle ville. Non, mais ce qu'il y a, en fait, il y a des DVI dans chaque pays aujourd'hui. Donc, chaque pays, s'il y a une catastrophe quelque part, on va d'abord prendre les DVI qui sont aux frontières pour assister. Nous allons intervenir, en général, s'il y a des Belges qui sont impliqués ou pour les missions humanitaires, comme mes collègues sont partis pour le tsunami.
Ou l'accident de la Malaysia Airlines.
Et voilà, MH17, effectivement, nous sommes allés assister les collègues hollandais. C'est un avion qui est abattu le 17 juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine. Et comme il y a 300 passagers dans cet avion, la majorité des passagers sont hollandais. Interpol dit aux Pays-Bas, vous pouvez prendre le lead. Ils envoient une équipe d'IVI sur place et malheureusement, c'est déjà un pays qui est en guerre, il y a quand même des dangers pour nous d'envoyer les équipes. Et les Hollandais vont décider de rapatrier tous les victimes à Hilversum, aux Pays-Bas, qui est une très jolie petite ville. Et nous allons travailler là-bas pendant 2 semaines pour vider, enfin sortir les victimes des cercueils et faire les examens post-mortem de toutes ces victimes.
Gwendoline nous écrit ceci, je remercie ces personnes qui s'occupent de nos proches, voire maman entre guillemets endormie et légèrement maquillée m'a aidée. Et mon mari, quand il a vu son papa, il s'est senti rassuré alors qu'il ne voulait pas au départ le voir. Alain Konings, vous aussi, vous avez été vous formé à l'étranger. Est-ce que vous avez senti que le regard sur la mort, la manière d'embaumer finalement les morts, de voir la mort était différente dans des pays étrangers?
Disons que la plupart des pays, on va dire occidentaux, ont une vision assez commune, identique à la nôtre. Plus on va peut-être aller en Afrique, on va avoir des rites différents, et j'ai notamment un confrère togolais qui lui représente les défunts dans leur position de travail, donc le présentateur de radio, avec son casque sur les oreilles, derrière son micro. C'est assez original à voir, j'avoue. Okay. Sinon, dans les grandes lignes, c'est assez standardisé, avec une petite notion, une petite différence pour les États-Unis qui ont tendance à vouloir rajeunir les défunts et les surmaquiller. Là, c'est un petit peu à l'outrance, ça fait un petit peu des poupées de cire. Donc ça, c'est pas très acceptable.
Ça veut dire qu'il y a des modes ? C'est pas culturel ?
C'est culturel, oui.
Ah, c'est culturel.
Oui, côté très chirurgie, botox et autres. Ah, oui. Et post-mortem, il y a une volonté vraiment de rajeunir et surmaquiller, même s'il est... Allez, un Américain qui vient en Belgique, j'en ai déjà reçu quelques-uns, quand il nous voit travailler, il fait « c'est différent ». Mais oui, mais ça marche ici. Et tu vois, nous, on cherche le naturel, qu'il ait l'air naturel. Eux, il faut qu'il ait l'air fake.
Et vous parlez de mode. Alain raconte d'ailleurs aussi dans le bouquin qu'il s'est rendu en Russie et en Ukraine sur des salons funéraires où en fait on n'habille pas les défunts avec leurs propres vêtements, mais il y a littéralement des défilés de mode où il y a des mannequins qui défilent avec des tenues, et ce sont ces tenues qu'on peut acheter pour habiller les personnes décédées. Et ils sont assez étonnés d'apprendre que nous on va enterrer nos morts vêtus de leurs vêtements de tous les jours. Et donc c'est assez étonnant. Je trouve ça assez fascinant de voir comment la mort est perçue, est vécue
de manière différente
d'un pays à l'autre. C'est assez fascinant.
Patricia van der Linden, je rappelle que vous êtes membre de la DVI. Quelles sont les techniques aujourd'hui qui sont utilisées pour l'identification de personnes? Alors, et en quoi est-ce qu'elles ont évolué?
Pas les techniques pour l'identification, non, dans la mesure où, depuis les années 80, on est sous l'égide d'Interpol. Et comme il y a des DVI dans chaque monde, ben, on travaille avec des formulaires Interpol, des formulaires internationaux, un guide des victimes international également. Et on travaille tous de la même manière. Ça, c'est un avantage. C'est qu'on a plus ou moins 195 DVI dans le monde. Et si, par exemple, l'Australie à un citoyen belge qui décède dans un accident de la route et que le visage est fortement abîmé, les Australiens vont nous demander d'aller dans la famille, de faire ce qu'on appelle un antemortem, la description de la personne. Quand je vais renvoyer ce formulaire-là, qui est plus ou moins constitué de 15 pages, ils vont savoir le lire. Parce qu'en fait, on travaille tous avec les mêmes formulaires. Donc, on n'a pas, je veux dire, au niveau de la manière de travailler, on n'a pas vraiment évolué. La manière de penser a fait qu'on va évoluer, notamment si on prend des catastrophes qui se sont déroulées en Belgique. Pour certaines catastrophes, on a mis du temps à identifier parce qu'on privilégiait les méthodes primaires, les empreintes digitales, l'ADN et le dossier dentaire de la personne. Moi,